La question que j'aimerais poser cet après-midi, c'est tout simplement pourquoi Jésus est-il venu sur terre ? La question est importante parce que, bien sûr, nous croyons en tant que chrétiens que la venue de Jésus est l'événement capital de l'histoire. Si on demandait aux gens dans la rue, aux gens qui vivent en France depuis longtemps, quel est pour vous l'événement capital de l'histoire ? Alors, ce serait intéressant de savoir ce que les gens diraient. On ne va pas faire cette interview aujourd'hui, même si c'est pratique parce que les rues sont bloquées. On pourrait en profiter pour faire des interviews. Mais pour nous chrétiens, il est évident que l'événement capital de l'histoire, c'est la venue de Jésus sur terre. Et on pourrait dire même, mais ce sera un sujet d'un autre jour, quel est l'événement capital que nous attendons tous maintenant ? Et nous dirions, c'est le retour de Jésus. Jésus est la figure centrale de l'histoire parce que Jésus, c'est tout simplement Dieu venu sur terre. Dieu venu sur terre, normalement, pour tous nos compatriotes, pour tous nos contemporains, Dieu venu sur terre, théoriquement, ça devrait être la réponse à toutes les questions. Le problème, c'est que bien sûr, nos contemporains sont loin d'être convaincus, pour leur grande majorité, que quand Jésus est venu sur terre, il était Dieu venu sur terre. Alors, la question, pourquoi Jésus est-il venu sur terre, est importante aussi pour nous. Certains pensent, pas parmi nous bien sûr, mais certains pensent que Jésus est venu pour apporter de nouvelles idées, pour enseigner une nouvelle moralité, une moralité supérieure certainement. D'autres pensent que Jésus est venu pour fonder une nouvelle religion, qui serait en quelque sorte la religion que Moïse avait développée et élaborée encore mieux, plus parfaitement. On pourrait penser que c'est cela, parce que Jésus a dit un jour, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » La venue de Jésus est donc quelque part un accomplissement de la loi. Et si on part du principe que la loi, c'est la révélation de la volonté de Dieu pour son peuple, c'était ce qu'était la loi de Moïse, c'était d'une certaine manière la plus belle expression de la volonté de Dieu pour son peuple. La loi de Moïse, c'était par exemple, tu aimeras le Seigneur, enfin, Jésus a résumé cela en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tout était résumé dans cela. Les commandements, les 10 commandements, résumaient aussi quelque part, ou expliquaient la pensée de Dieu pour son peuple. Et Jésus a dit, moi je suis venu accomplir tout cela. Alors quand on se pose la question, pourquoi Jésus est-il venu sur terre ? La réponse est toute simple, parce qu'elle est écrite noir sur blanc dans l'Évangile. J'ai choisi pour cet après-midi 3 phrases. Je crois qu'il y en a une qui a été oubliée tout à l'heure dans la lecture, mais c'est pas grave, on va la faire, c'est un verset très court. Jésus a dit au moins 3 fois, « Je suis venu pour ». Donc dans ces 3 phrases, nous avons la révélation de la volonté de Jésus pour tous les hommes. Le premier de ces textes qui a été lu, c'est dans Jean chapitre 18, c'est le tout premier. Alors peut-être on peut prendre le verset d'après. Si l'ordinateur est capable de nous faire ça, oui, il va venir. Ah ben voilà, ça y est, c'est venu. Quelquefois ça marche très bien. Hein. Et alors, voilà, Pilate, vous savez que Pilate était donc le gouverneur de la Judée, la région où Jésus a exercé la plus grande partie de son ministère, avec sa capitale Jérusalem. Pilate était un homme politique. C'est un homme qui vivait bien sûr à fond dans la politique. Bon, la politique à l'époque, c'était pas aussi sophistiqué que maintenant, avec la démocratie, avec les parlements, les palabres, les discussions en tout genre, les débats télévisés. À l'époque, la politique, c'était surtout celui qui est au pouvoir, a tous les pouvoirs, il a la force militaire avec lui, et il dirige et il faut obéir. C'était beaucoup plus simple entre nous. Pilate était le représentant du pouvoir absolu, puisque c'était un gouverneur romain, et Rome dirigeait le monde. quand on prend l'Europe, enfin l'Europe, quand on prend la Méditerranée et qu'on part de l'Espagne en passant par la France, par l'Italie, par la Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, par la Grèce, puis après on continue par la Turquie et puis par tout le sud avec tous les pays du Maghreb, tout cela et encore plus loin, c'était l'Empire romain de l'époque. Pilate représentait cela. Et il est intéressant de voir que Pilate, quand il a eu Jésus devant lui, alors nous, pour nous, Jésus, bien sûr, c'est le Fils de Dieu, et c'est vrai que c'est, Jésus a toujours été, il était le Fils de Dieu. Mais vous pouvez imaginer un petit peu le gouverneur romain qui représente toute la puissance de toute la plus grande, de tout le plus grand royaume du monde à l'époque, qui gouverne la grande, plus grande partie du monde civilisé, et qui a devant lui un jeune prédicateur d'une trentaine d'années, que des foules ont suivi, mais sans doute des foules de quelques milliers de personnes dans un pays qui était sans doute un petit peu moins peuplé qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais un jeune prédicateur qui n'avait jamais étudié dans aucune université, qui n'avait pas étudié dans les écoles rabbiniques. J'essaie de représenter Jésus comme Pilate a dû le voir. Un de ces prédicateurs un peu étranges, qui enseignent des choses nouvelles, comme il y en avait de temps en temps en Israël. Il a devant lui cet homme, Jésus. Il ne sait pas que c'est le Fils du seul Dieu, du Dieu qui a tout créé. Les dieux de Rome à côté sont des inventions humaines qui n'ont jamais rien pu faire pour aucun Romain, quel qu'il soit, mais il a devant lui Dieu, le Dieu souverain de l'univers. Je ne sais pas si un jour Pilate comprendra qu'il a eu devant lui Dieu en personne. Et alors, ayant Jésus devant lui, Pilate lui dit, Jésus lui dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et juste après, dans le texte, Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? D'ailleurs de dire, oh là, vérité, vérité, c'est un grand mot. Qu'est-ce que tu dis là? Comment oses-tu dire, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité? Vous savez que la vérité avec un grand V, c'est une des choses que les hommes prétendent qu'on ne peut pas connaître. Quand il y a des débats à la télévision sur ce thème, tout le monde est là en train de dire, les philosophes, même parfois les autres disent, oh la vérité, c'est un petit peu, c'est une phrase très appréciée chez les Français en tout cas, à chacun sa vérité. Et en disant cela, tout le monde croit simplifier les choses, ça veut dire, bien écoute, moi j'ai raison, toi tu as raison, lui il a raison, elle a raison, on a tous raison, même si on ne pense pas tous pareil. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Cette vérité, c'est Jésus qui est venu l'annoncer. Alors comment Jésus a-t-il annoncé la vérité? D'abord, il a toujours parlé vrai. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a rendu témoignage à la vérité en vivant une vie vraie, en ne trompant jamais personne. Et chaque fois qu'il a dit, il a parlé de Dieu, il a appelé Dieu son Père, il s'est fait, comme l'accusaient certains de ses ennemis, l'égal de Dieu, mais il était Dieu. Jésus a parlé comme étant Dieu, et comme étant venu sur terre pour révéler Dieu. Et Jésus a même été plus loin, puisqu'il a dit, je crois que c'est dans Jean, au chapitre 8 et au verset 31, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, c'est... Si vous écoutez ma parole, si vous écoutez mes paroles, et que vous croyez qu'elles sont vraies, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Elle vous rendra libre. En d'autres termes, si nous voulons connaître la vérité, nous devons écouter les paroles de Jésus. Et nous devons croire que tout ce que Jésus dit est vrai. Et Jésus promet que si nous croyons ses paroles, si nous faisons vraiment, si nous les considérons comme vraies, et si nous appuyons notre vie sur ses paroles, si nous faisons confiance à Jésus, quand il dit par exemple, ceux qui croient en moi verront la gloire de Dieu, ceux qui croient en moi auront la vie. Alors si nous croyons ses paroles, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Pourquoi ? Vous vous rendrez compte par vous-même que ce que je dis est vrai. Et cette vérité vous libérera. Elle vous rendra libre. Elle vous libérera de quoi ? Elle vous libérera du mal. Elle vous libérera de vos, peut-être de vos penchants vicieux, il vous libérera de vos pensées mauvaises, il vous libérera de tout. C'est vrai que si on prend juste l'exemple des pensées mauvaises ou négatives, les paroles de Jésus ont un véritable pouvoir pour changer nos pensées et en faire de bonnes pensées. Si nous lisons l'Évangile, si nous lisons la Bible, si nous lisons tout ce que dit le Nouveau Testament, les bons conseils de l'apôtre Paul par exemple, eh bien, nos pensées ne pourront pas être des pensées négatives, parce que nous saurons toujours que quoi qu'il arrive, Dieu est là et il peut tout changer. Il peut nous libérer, il peut, même si nous sommes malades, nous guérir, il peut nous aider à résoudre tous nos problèmes, parce qu'il est là avec nous. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc si nous croyons les paroles de Jésus, nous pouvons être certains qu'à partir de maintenant, Jésus, ou comme il l'est déjà depuis un bon moment pour certains, Jésus sera toujours avec nous. Nous pourrons toujours le prier, nous pourrons toujours lui faire confiance. Si Jésus, est venu pour rendre témoignage à la vérité. Alors, dans un deuxième texte, je pense qu'on ne l'a pas lu tout à l'heure, même s'il s'est affiché rapidement, je vais lire juste un verset sur les trois. Quand Jésus dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, il est dit un peu plus loin, au verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et un peu plus loin, je cherche le texte, un peu plus loin, Jésus dit, un peu plus tard, « Je suis venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver. » Voilà le deuxième but de la venue de Jésus. Je suis venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Vous savez que très souvent, les gens se détournent de ce qu'ils appellent la religion parce qu'ils pensent que la religion les condamne. Il est vrai que si on regarde l'Ancien Testament, tout à l'heure je parlais de la loi de Moïse, des 10 commandements, si on regarde les 10 commandements, on a tendance à se sentir condamné, si on se voit tel qu'on est. Parce que tout ce que demandent les commandements, ça paraît difficile à l'être humain, naturellement. Si on dit aux hommes d'aujourd'hui, qui sont mariés, « Tu ne commettras pas l'adultère !» Je pense qu'il y a bien au moins un Français sur deux qui a déjà trompé sa femme, ou une femme sur deux qui a trompé son mari. Non, je ne parle pas des chrétiens, bien sûr, je parle du monde en général. Beaucoup de gens se trompent les uns les autres. Si on regarde la loi telle qu'elle est, les hommes vont dire « Mais moi, j'ai fait tout ça. Tout ce qu'il était interdit de faire. » Si on dit aux gens « Est-ce que tu n'honores qu'un seul Dieu ?» Les gens diront « Mais moi, je n'honore aucun Dieu. » En fait, ils honorent peut-être le Dieu de l'argent, ou le Dieu du plaisir, ou le Dieu du travail, etc. Tout le monde a un Dieu. Mais les gens diront « Je ne peux pas accomplir les commandements de Dieu. » Et c'est vrai que la loi de Dieu condamne tous les hommes, la loi de Moïse, je veux dire, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais Jésus dit, lui, « Je suis venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver. » Vous vous rappelez l'histoire qui est arrivée quand Jésus était sur terre? Un jour, il était là avec ses disciples, avec d'autres personnes, avec la foule, et puis tout d'un coup, il y a eu du remue-ménage à quelques pas de là, et les chefs religieux de l'époque ont amené auprès de Jésus, ils l'ont presque jeté par terre sans doute, une femme dont ils ont dit, nous l'avons pris, en flagrant délit d'adultère. Je me suis toujours dit, mais comment se fait-il qu'ils ont amené que la femme? Parce que pour commettre un adultère, en principe, il faut au moins être deux. Alors, ils ont amené que la femme, parce que la loi juive, par contre, la culture juive était assez contre, voyait les femmes d'une manière inférieure à l'homme, en général. Alors, qu'est-ce s'est-il passé quand Jésus a vu cette femme? La loi de Dieu la condamnait. Normalement, dans la loi de Moïse, une femme ou un homme, parce qu'il y avait forcément un homme, qui commettait l'adultère, devait être mis à mort. C'était la loi. Alors les chefs religieux amènent cette femme à Jésus pour lui tendre un piège, pour lui dire « Mais la loi de Moïse dit, cette femme doit être lapidée. » Et la Bible dit que Jésus n'a rien répondu. Il s'est penché par terre, il a écrit quelque chose par terre. Alors, je vous passe les interprétations sur ce que Jésus a écrit par terre, puisque nous n'avons aucune information à ce sujet. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais le but n'est pas cela. Le but, c'est qu'a dit Jésus après ? Au bout d'un moment, vous savez qu'il s'est relevé et il a dit que celui ou celle qui n'a jamais péché prenne la première pierre et la lui jette. Parce que l'une des condamnations à mort, le plus souvent, c'était par lapidation, c'est-à-dire qu'on prenait des pierres et on les jetait sur la personne jusqu'à ce qu'elle meure. Bon, c'était une mort un petit peu particulière, hein. C'était la coutume à l'époque. Alors, Jésus dit, si vous êtes sans péché, alors que cette femme vous dit qu'elle a péché, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il prenne une pierre et qu'il la jette. Et puis tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais péché, qu'ils prennent les pierres et les jettent jusqu'à ce que cette femme soit morte. Et la Bible dit que ces hommes-là, en entendant ce que Jésus a dit, ont commencé à partir sans prendre de pierres. Ils se sont levés et ils ont commencé à partir les uns après les autres, du plus jeune, du plus âgé au plus jeune, ou du plus jeune jusqu'au plus âgé. Tous, cela veut dire. Tous sont partis les uns après les autres, jusqu'au point où Jésus s'est retrouvé tout seul avec cette femme. Et Jésus, qu'a-t-il fait ? Il a dit, je suis venu non pour condamner, mais pour les sauver. Il a dit, femme, est-ce que tous ceux qui t'accusaient sont tous partis ? Et comme Jésus avait vu qu'ils étaient tous partis, il a dit, c'est bon, va et ne pêche plus. Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus lui a dit, je ne suis pas venu pour que tu meures sous les pierres, en quelque sorte. Je suis venu afin que tu puisses arrêter de pécher. Afin que tu puisses vivre sans commettre de péché. Et cela est possible parce que Jésus a dit un jour à un chef religieux, ce qui compte, c'est qu'il faut que vous soyez nés de nouveau. Jésus est venu et il a prêché la possibilité pour tout homme, non pas d'être condamné, mais de vivre une vie nouvelle. C'est ce que veut dire l'expression pour être sauvé. Être sauvé, c'est recevoir de Dieu le moyen de ne plus pécher, le moyen de vivre une vie véritablement agréable à Dieu, le moyen de vivre une vie dans laquelle nous n'allons plus commettre de péché, nous n'allons plus commettre de faute, parce que Dieu, chaque jour, sera avec nous. Paul l'a dit d'une autre manière en disant, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un donc naît de nouveau en Christ, avec Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes, la vie dans le péché, c'est fini. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Jésus, ce n'est pas une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu pour apporter une nouvelle religion. Il est venu pour apporter une vie nouvelle. C'est tout à fait différent. Jésus ne condamne personne. Tout ce que nous avons fait de mal avant, toutes nos imperfections, toutes nos erreurs, toutes nos fautes, tous nos péchés éventuels, tout cela a été cloué à la croix de Jésus quand Jésus est mort. La Bible dit qu'il a pris tous nos péchés. Il a pris toutes nos fautes, toutes nos imperfections, toutes nos impuretés, toutes nos faiblesses. Et en Christ, si nous pouvons vivre une vie nouvelle, c'est parce que, comme le dit la parole de Dieu, Christ vit maintenant en nous. Dernier point, Jésus a dit, Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que ceux qui croient en moi aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » La vie que Jésus donne, comme nous venons d'en parler, la nouvelle vie que Jésus donne, ce n'est pas n'importe quelle vie. Si par exemple nous avons pratiqué une religion avant de connaître Jésus, nous n'allons pas pratiquer une autre religion maintenant. Nous l'avons dit il y a un instant, c'est une vie nouvelle. La vie nouvelle que Jésus donne, c'est une vie dans laquelle il va vivre en nous. Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20 que, en fait, quand Christ est crucifié sur la croix, il a été lui aussi, Paul, comme chacun de nous, crucifié à la croix. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, moi, Paul, dit l'apôtre, ce n'est pas vraiment moi qui vis, ça c'est très fort, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand un chrétien, quand un homme ou une femme devient chrétien, que se passe-t-il ? Jésus, par l'Esprit Saint, vient vivre en lui, en elle. C'est ce que dit Paul. Si maintenant je vis, Paul, le vrai Paul, enfin le Paul que vous connaissiez, il parle à ses contemporains bien sûr, dit l'apôtre Paul, celui qui s'appelait avant Saul de Tarse, cet homme-là, qui faisait le mal, qui persécutait l'Église, cet homme-là, il est mort. Il est mort le jour où il a cru à ce que Jésus a fait à la croix. Quand il a cru que Jésus est mort pour lui, il est mort avec Jésus. Et ce qui se passe, c'est une expérience extraordinaire, c'est quelque chose de phénoménal même. Lorsque nous croyons que Jésus est mort pour nous, nous mourons avec lui. Et comme Jésus est ressuscité des morts, c'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 6, quand Jésus est ressuscité, comme Jésus est ressuscité des morts, nous aussi nous ressuscitons pour une nouvelle vie, une vie où Christ va vivre en nous. Alors vous me direz, je ne suis pas complètement parfait. Non, moi non plus d'ailleurs. Je ne suis pas complètement parfait, tout simplement parce que si Jésus vit en moi, je ne le laisse pas tout le temps faire tout ce qu'il veut. Imaginez que, pour une raison ou une autre, quelqu'un, probablement quelqu'un que vous connaissez, vient s'installer chez vous. Quelqu'un arrive et dit, vous connaissez cette personne, ou peut-être vous l'avez invité à venir s'installer chez vous. Vous dites, bon voilà, tu vas maintenant vivre avec moi dans la maison, tu auras une chambre, tu pourras te servir de la cuisine, de la salle de bain, etc. Bon, tu vas vivre avec nous. Alors imaginez que cette personne, ce soit Jésus. J'aime bien prendre cette image parce que souvent quand je dis cela, les chrétiens qui sont là dans l'église font une tête un peu particulière, ils sourient, pensent que c'est parce qu'ils imaginent. Imaginez que ce soir quand vous rentrez chez vous, vous êtes enfermé chez vous, tout d'un coup ça sonne, ça frappe, vous ouvrez, c'est Jésus. Jésus vous dit, je vais maintenant venir habiter chez toi pendant quelques temps, un an, deux ans. Est-ce que votre vie va changer ? J'espère que vous allez dire oui. Est-ce que votre vie va changer ? Oh, je pense que... Alors, si la maison n'est pas très bien rangée, vous allez la ranger. Bon, ça, c'est pas très grave encore. Je pense pas que Jésus vous fera trop de reproches sur ça. Mais il y aura des habitudes. Certains coups de fil vont arriver. Vous direz, ben écoute, je peux pas trop te parler parce qu'il y a Jésus qui est là. Bon, vous imaginez, bien sûr, on imagine. Mais c'est un peu cela qui se passe. Quand nous acceptons que Jésus entre dans notre vie, Paul dit, c'est Jésus qui vit en moi, donc c'est Jésus qui vit dans mon corps. Tout ce que je vais faire va être profondément marqué par Jésus. C'est Jésus qui va me dicter ma conduite. Après tout, je n'ai plus qu'à dire, Jésus, c'est toi qui prends le contrôle, tu m'aides, tu m'inspires, tu m'instruis, tu me donnes des conseils, et puis je vais faire tout ce que je peux pour suivre tes conseils. Jésus vit vraiment en nous. Jésus vit en nous et Jésus va nous donner cette assurance de sa présence dans nos vies. C'est pour cela que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour que nous gardions notre petit Nouveau Testament dans la poche et puis quand ça va mal, on l'ouvre pour voir s'il n'y a pas une parole de Dieu. Et puis quand ça va bien, on le laisse dans la poche. Quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu comme c'est souvent le cas de nos contemporains. Et puis quand tout va mal, tout d'un coup, on prie parfois pour la première fois de sa vie. Parce qu'on est dans la détresse. Et puis une fois que Dieu est intervenu, s'il intervient dans ce cas-là, eh bien après on oublie. Et puis quand il y a une nouvelle détresse, 3-4 ans plus tard, « Oh Dieu, aide-moi, là où tu es !» Non. Jésus est venu pour que ceux qui croient en lui aient la vie, une nouvelle vie, et qu'ils aient une vie abondante. Et la vie est abondante avec Jésus, parce que c'est Jésus qui vit en nous. Jésus est venu, premièrement, Jésus est venu d'abord pour rendre témoignage à la vérité. Et si nous écoutons sa voix, nous connaîtrons la vérité et nous serons des gens libres. Jésus est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver en nous donnant une nouvelle vie. Et troisième point, Jésus est venu pour que la vie qu'il nous donne soit une vie abondante. Une vie abondante parce que c'est lui qui vit en nous avec tout ce qu'il possède et qu'il veut mettre à notre disposition. Que son nom soit béni.